Veuillez ouvrir votre Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans une ville très immorale. À l'époque, on a même fait du nom de cette ville un verbe, corinthianiser, qui signifie se faire prostituer. C'est la réputation de cette ville. Mais c'est aussi une ville très réputée pour la philosophie. En second rang seulement par rapport à Athènes. Et l'évangile arrive et bouleverse tout. Mais quand on devient chrétien, parfois on ne se détache pas complètement de toutes nos manières de penser d'avant. On ne s'en détache pas d'un coup. Et voilà ce qui se passe dans notre église à Corinthe, et ça crée des problèmes. On a des anciennes manières de penser au niveau de qu'est-ce que c'est qu'être spirituel, une personne spirituelle. Qu'est-ce qu'un leader de l'église? Qu'est-ce que la sagesse? Comment annoncer l'évangile? Et ces mauvaises manières de penser, ces anciennes manières de penser, créent des divisions. Dans l'Église, il y en a un qui dit « je suis de Paul », l'autre « je suis d'Apollos », « je suis de Céphas », ainsi de suite. Et surtout, ça crée beaucoup de problèmes par rapport à Paul, qui a fondé cette Église. Et quand nous avançons dans l'Épître, nous découvrons que Paul est en fait de tout faire pour essayer de défendre son apostolat. Il dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, parce qu'il est jugé par eux, une grande partie de l'Église. Et avec lui, son évangile et sa manière de le prêcher. C'est pour ça qu'il est inquiet. C'est pas son souci pour lui-même, mais c'est parce qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ. Et le rejet de Paul va mener au rejet de l'évangile. Et donc, nous arrivons au verset 17, que nous avons quand même lu la dernière fois, mais nous allons lire les versets 17 à 25, maintenant, où Paul est en train de continuer une conversation. Ne soyez pas divisés, ne dites pas « je suis de Paul, je suis d'Apollos ». Je lis le verset 17. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. » Et cela, écoutez bien, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, ou afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de sa puissance. Il y a une manière de vider l'évangile de sa puissance. Vous pouvez aller l'annoncer sans effet. Il suffit de faire ce que Paul refuse de faire. Car la parole de la croix, ou le message de la croix, de l'évangile, est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, citation d'Ésaïe, le passage que nous avons lu dans le culte tout à l'heure, « Je détruirai la sagesse des sages, dit Dieu, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Paul dit, où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Demandent à qui ? Demandent à Dieu parce qu'ils sont religieux. Les Grecs cherchent la sagesse. Ils ne demandent pas, parce qu'ils ne sont pas religieux comme dans le sens des juifs, mais ils cherchent. Ils sont des philosophes. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous allons, en nous mettant à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans ce passage, penser à trois choses. Un fait, une raison pour ce fait, et une application, tout simplement. Le fait. Verset 18. La parole de la croix est une folie, c'est un fait. La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, littéralement, qui sont en train de périr. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Voilà un fait remarquable que vous vivez en tant que chrétien. Quand vous annoncez l'évangile, le même message, dit de la même manière par la même personne, et pour certaines personnes, une folie totale, tellement une folie qu'ils ont envie de vous insulter. De vous dire, mais c'est n'importe quoi, comment est-ce que tu peux croire ça? Ça, c'est la réaction de certains. Mais d'autres qui entendent le même message, de la même personne, de la même manière, ça les transforme complètement la vie. Ils comprennent maintenant, ils ont une sagesse, ils savent d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils sont, comment revenir à ce qu'ils auraient dû être. Ils comprennent tout et ils sont complètement, il y a une puissance par ce message qui les bouleverse. Ça, c'est un fait. OK? Et nous, vous et moi, nous devons vivre avec ce fait. On ne peut pas le changer, on ne veut pas le changer, c'est comme ça. Deuxième point. Une raison. La raison pour laquelle la situation est telle. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire du siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quand vous annoncez l'évangile à vos amis non-chrétiens, il faut que ça produise les deux réactions tellement contraires. Il faut que votre évangile soit une folie totale pour tous les gens qui vont jamais se convertir. Nous ne savons pas qui c'est, d'accord? Ça peut être une folie pour un moment et puis la personne peut se convertir après, je suis d'accord. Mais en tout cas, il faut que ce soit comme ça. Parce que si vous enrobez, si vous édulcorez l'évangile de manière à ce que ce soit raisonnable pour des gens qui vont périr, ça veut dire que vous n'avez pas détruit leur manière païenne de penser, vous avez battu dessus et vous les avez laissés dans leur péché. Je vais essayer d'expliquer cela, mais réfléchissons un moment à la sagesse. Paul dit au verset 20, « Où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire du siècle, de ce siècle ?» Tenez bien. Il est en train de dire, maintenant avec la venue de Jésus, on a tourné la page. Ce présent siècle, maintenant, il est en train de périr. Il est maintenant sous le jugement de Dieu et c'est en train d'être exposé comme une faillite totale. Et c'est la venue de Jésus et sa mort et la prédication de cette folie de la croix qui change la vie des uns qui montre que la sagesse des autres, qui reste avec leur manière païenne de penser, est un échec complet. Voilà. Qui est le sage? Le mot signifie le philosophe. Le philosophe grec, d'accord, qu'on regardait comme le summum de l'intelligence, comme si on parlait aujourd'hui de nos philosophes français qui écrivent les grands livres, n'est-ce pas? Ça, c'est le sage. Le scribe, c'est un mot qui n'est pas dans le monde grec, c'est un mot qui est dans le monde juif. Ça, c'est le théologien. Le théologien libéral, le théologien qui n'a pas compris la folie de la croix et qui essaie de faire sa religion à partir de sa pensée humaine. D'accord? Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Et qui est le contestataire? Ça, c'est l'expert en débat. Ça, c'est l'expert en débat qui vient à Corinthe, d'accord? Et dont on est habitué à ces gens qui sont fameux, qui sont payés à plein temps pour aller de ville en faisant des débats philosophiques. D'accord? Maintenant, réfléchissons un moment sur comment la sagesse de ce siècle, la sagesse purement humaine, marche. Comment est-ce que ça marche? Le problème avec la sagesse de ce siècle n'est pas les réponses qu'elle donne simplement aux grandes questions ultimes. C'est que cette sagesse ne pose même pas les bonnes questions. C'est tout le processus de la sagesse qui est mauvais, condamnable, rebelle et insensé. Parce que quel est le processus du philosophe français ou la sagesse du monde en général? Le processus est comme ceci. Je présuppose que l'existence est un peu une vase close. Et tout ce qui peut y avoir un sens, ce sens, c'est, je peux le trouver si je fais de l'investigation, j'examine, je réfléchis, j'utilise ma raison, ma logique, mes sens, mes yeux, j'écoute, je vois, et puis je réfléchis. Tout ce que je dois savoir, tout le sens qu'il peut y avoir en quelque chose, c'est moi qui peux le découvrir de moi-même. Ça va? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'une information du dehors sans laquelle je ne peux pas savoir quelque chose. Je vous donne juste un petit exemple, ou peut-être deux exemples. Je ne sais pas si vous avez joué ces jeux où on échappe à une salle, il y a des énigmes et on doit les résoudre pour échapper. Je n'ai pas encore fait ça. J'ai le projet de le faire cet automne, mais l'idée c'est que tous les sens qu'on doit découvrir, on peut les découvrir nous-mêmes à l'intérieur de cette salle. On n'a pas besoin d'une information de celui qui a fabriqué la salle, parce que la réponse à un énigme, c'est quelque chose que lui seul peut savoir. Non, il n'y a pas quelqu'un dehors. Il y a juste nous dedans, et tout ce qui peut se savoir, c'est nous qui le saurons. D'accord? Ou bien, voilà un homme et une femme qui sont devenus tellement frustrés avec le monde civilisé qu'ils ont quitté. Ils sont allés dans une île très reculée, et là, ils ont fait des enfants, et ils ont vécu seuls là, d'une manière complètement primitive. Et les parents ont dit, ok, quand on va avoir les enfants, on ne dit jamais rien sur le monde en dehors. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants sachent que ce monde civilisé existe. Donc ils n'ont jamais rien dit. Les enfants ont grandi en pensant que leur île était tout. Ils ne voyaient que de l'océan autour et qu'ils étaient les seuls êtres vivants. Un jour, en allant sur la plage, maintenant que les parents sont décédés, un des enfants, qui est adulte, voit un CD qui est venu par les vagues de l'océan. Maintenant, il a un présupposé. Le présupposé, c'est que mon monde est tout, nous sommes les seuls, et tout ce qui peut savoir, tout ce qui peut avoir un sens, c'est moi qui peux le découvrir en mettant ensemble ce que je vois. Donc, il prend ce CD et dit, ah, non, c'est pas de la nourriture. Il regarde de près, c'est pas un animal, il n'y a pas de vie là-dedans. Écoute, c'est peut-être quelque chose que papa avait fabriqué à l'époque. Donc, il le jette. Non, c'est pas pour ça, il y a un trou au milieu, qu'est-ce que ça signifie? Il semble être des rayures qui vont en cercle concentrique. Il regarde, il voit aucun sens par rapport à tout ce qu'il connaît, et il conclut, c'est un objet sans sens. Ça n'a pas de sens, et il le jette dans la poubelle. D'accord? Quel est son problème? Son problème, c'est tout le processus qu'il a utilisé. C'est le présupposé qui a fondé sa manière de vouloir découvrir le sens de l'objet. Son présupposé, c'est qu'il n'y a rien en dehors, personne en dehors, qui doit et peut m'informer de ce que c'est que cet objet. Si l'objet a un sens, c'est moi qui le saura par mon investigation. Or, c'est un objet qui avait un sens. Il aurait pu savoir si quelqu'un de dehors qui connaissait le sens lui avait dit. Vous avez compris? Et vous voyez le problème de la sagesse de ce monde? Cette sagesse de ce monde a un principe. Il n'y a pas de révélation divine. Il n'y a pas d'information de Dieu qui est nécessaire pour me dire qui je suis, pourquoi je suis là, est-ce que quelque chose ne va pas avec moi? Si oui, comment est-ce que ça peut être remédié? Aucun besoin d'une information de dehors. C'est moi qui décide, par ma réflexion, qui je suis, si quelque chose ne va pas, et comment remédier. Vous voyez le grand problème. On est dans un grand, grand, grand problème maintenant. Et tout à l'heure, je vais vous donner une autre illustration qui va vous montrer vraiment la gravité de ce problème. Donc, l'histoire de la philosophie humaine, en France et ailleurs, c'est l'histoire de « moi, je pense ». D'accord? Et si vous étudiez l'histoire de la philosophie, depuis Aristote jusqu'à Platon, jusqu'aux philosophes d'aujourd'hui, c'est une histoire de chacun qui vient après l'autre et qui montre pourquoi l'autre avait complètement tort. Que la philosophie précédente avait des failles logiques et n'expliquait pas du tout le sens des choses de manière cohérente. Ça, c'est l'histoire de la philosophie et c'est le sens de la phrase de Paul quand il dit « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. » Chers amis, toute la sagesse de ce monde et de la France jusqu'aujourd'hui n'a amené personne à la réalité. À la réalité vraie de ce que nous sommes, de ce dont nous avons besoin et de ce que nous devons faire. C'est assez époustouflant que les hommes les plus sages et brillants qui ont consacré leur vie à ne faire que réfléchir pour essayer de voir le sens de l'existence, ils ont complètement loupé. Complètement loupé. Parce que le processus lui-même était complètement bancal dès le début. Vous savez que avec la sagesse du monde, on ne peut même pas savoir la chose la plus importante au sujet d'une rose. Le scientifique athée arrive, il passe sa vie à investiguer la rose, à essayer de la comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une rose? Il comprend la fonctionnalité beaucoup mieux que moi. Il peut vous décrire toutes les parties et comment ça marche et combien c'est. Mais il ne sait pas ce que je sais. C'est que la rose est une chose créée exprès par un Dieu créateur pour une raison, et cette raison et pour vous plaire, vous faire du bien et vous montrer qu'il y a, que cette existence est est une existence faite par un Dieu qui étale sa bonté, qui bénit, qui par sa nature aime rendre beau. Il sait pas ça. Il n'a aucune idée que la rose est là pour cette raison incroyable. Mais moi, je le sais. Quand je regarde la rose, je dis merci parce que tu l'as fait pour me faire cet effet. Et quand le scientifique regarde la rose, il n'a aucune idée qu'il y a une relation personnelle formidable qui est en train de lui parler. Que la rose est une parole qui dit « Je suis là, je t'aime, je veux te bénir !» Mais il ne voit pas la chose la plus importante que la rose lui dit. C'est fou! C'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Ok, on avance. Deux sortes de sagesse, ou deux sortes de, oui, de sagesse humaine. Regardez le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Alors, en fait, c'est deux sortes de sagesse. D'abord, les Grecs, nous avons déjà parlé, on n'a pas plus besoin de parler de ça. Ils cherchent par la réflexion, mais les Juifs sont un peu différents. Il y a des gens dans ce monde qui sont un peu comme les Juifs. Les Juifs cherchaient des signes miraculeux pour prouver que si je viens vous parler et vous dire il en est ainsi de l'existence, ils voulaient savoir si Dieu était vraiment dedans. Si c'est Dieu qui m'envoie. Donc, ils voulaient voir un signe miraculeux. Ça semble être bon, ça va. Mais le problème, c'est que quand Jésus vient et il fait des miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent encore plus de miracles. Ils sont dans une demande incessante. Encore plus de miracles. Je vous lis juste un ou deux versets. Malgré, Jean chapitre 12, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole d'Ésaïe, le prophète qui a prononcé, qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ou bien, en Matthieu 12, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Quel est le problème? C'est que ils demandaient pas des miracles avec un esprit ouvert à être enseigné, à recevoir quelque chose de dehors qu'ils ne savaient pas. Mais c'est plutôt eux qui se tenaient en juge. Et quand les miracles venaient, ils disaient, non, ce miracle, ça ne me convainc pas que c'est Dieu. Donc, donnez-moi un autre. Quand moi, je serai satisfait par mon jugement, mon intelligence, ma sagesse, que ce miracle me suffit, je vous le dirai bien. Donc, ne m'appelez pas, je vous appellerai. Vous voyez le problème? Nous avons l'homme qui est le juge, c'est son intelligence qui décide si ça vient de Dieu ou si ça vient de Béelzébub. Et donc nous sommes dans le même schéma que les Grecs. Maintenant, je veux vous raconter cette histoire pour qu'on comprenne jusqu'au fond ce problème et puis je vais finir. Vous savez que Nikki, pour l'enregistrement, mon épouse vient de rentrer de l'Afrique du Sud. Elle vient de passer une semaine pour secourir sa maman. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sa maman, qui a 94 ans, a fait une chute dans la cuisine. Nous ne savons pas comment. Elle était seule. Le père l'a trouvée inconsciente. Il a dû aller chercher un voisin parce qu'il a 90 ans lui-même. Et le temps de chercher le voisin pour relever son épouse, elle est restée inconsciente au moins une bonne quinzaine de minutes, probablement plus. Son visage est devenu plus bleu et derrière sa tête, elle avait beaucoup de mal. Elle a fracturé la poignée. Et pendant les 2 ou 3 jours après, à force d'être au lit, elle a attrapé une infection pulmonaire. C'est souvent comme ça que les personnes âgées meurent. Chute, immobilité, infection pulmonaire, pneumonie, mort, ça prend à peu près 5 semaines. Donc, Nikki est allée après 3 ou 4 jours dès qu'elle a entendu qu'elle avait l'infection pulmonaire. Et donc, la maman, elle a trouvé sa maman dans une confusion totale. Nikki l'avait vue, nous étions allés en mars, elle avait toute sa tête, ça allait bien, mais à cause de la chute, etc., elle ne savait pas ce qui se passait. Elle pensait qu'elle était en train de faire une bonne sieste et un beau rêve, alors qu'elle était inconsciente par terre dans la cuisine. Et donc, un jour, juste après l'arrivée de Nikki, sa maman lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, ma fille? Elle savait que Nikki ne venait qu'une fois par année pour voir sa maman, c'est très cher d'aller en Afrique du Sud, et qu'on venait d'être là il y a 2 mois. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une folie. Ça n'a pas de sens. Tout comme les gens pour qui l'évangile est une folie. Ça n'a aucun sens que Jésus visite, que Jésus vienne. Et la maman de Nikki, ça n'a aucun sens, Nikki, que tu visites, que tu viennes de France ici. Que fais-tu ici? Elle oubliait chaque fois qu'elle avait eu cette chute. Et donc, le message et la visite n'avaient pas de sens. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que je dois faire? Dit sa maman. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à mettre un sens sur cette visite de Nikki? Parce qu'elle ne savait pas son histoire. Elle ne savait pas son histoire. Elle ne savait pas sa chute. Elle ne savait donc pas qu'elle était dans un état nécessiteux. Elle ne savait pas que le remède ne pouvait lui venir qu'une de ses filles. Pourquoi? Parce que quand Nikki était arrivée, elle a découvert que sa maman n'avait pas eu une douche depuis une semaine, depuis la chute. Qu'elle était déshydratée et qu'elle ne prenait que la moitié de la dose de son médicament pour la tension. Le papa est tel qu'il veut être autonome. Il veut demander de l'aide de personne. Et la maman ne veut que personne l'aide à faire des choses intimes comme faire une douche. Il n'y a que Nikki et sa sœur qui arrivent à intervenir dans une situation comme ça. Donc, mais elle ne savait pas qu'elle était dans cet état. Elle ne savait pas son histoire. En fait, il fallait que quelqu'un de dehors, si, est-ce qu'elle aurait pu comprendre la visite de Nikki et son sens et dire, c'est ça mon salut. Juste en réfléchissant, en s'asseyant là par sa sagesse. Non, parce qu'elle réfléchissait à partir de sa confusion, à partir de sa perte de toute connaissance de son histoire. Il fallait que Nikki lui explique, vienne et lui explique une information qui ne pouvait pas venir d'au-dedans d'elle. Tu es tombé, tu as fait une commotion cérébrale, tu as une infection pulmonaire. Et tu as besoin de moi pour te remettre debout, pour que tu bouges, parce que si tu bouges pas, tu vas mourir. Tu vas attraper une pneumonie et tu vas mourir. Et papa n'arrive pas à te bouger et il veut que personne d'autre ne te bouge. Alors, ces informations ne pouvaient pas venir de dedans. Ça doit être une révélation qui vient de dehors. Et elle doit l'accepter. Elle doit l'accepter. Maintenant, juste un autre point. Il y avait un aspect un peu rebelle de cette mentalité de sa maman. Nikki venait le matin, ok maman, réveille-toi, tu vas prendre une douche. Oh non, 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 je ne vais pas prendre une douche. Elle était rebelle. Il est l'hiver en Afrique du Sud. Elle a 94 ans. Ça ne fait pas bien d'aller dans le... N'est-ce pas? Non, 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 j'ai pas besoin d'une douche. Et quand elle a eu enfin la douche, elle voulait se recoucher et dormir toute la journée. Maman, réveille-toi, tu dois bouger, tu dois te mettre debout. Je n'ai pas besoin de me mettre debout. Je connais mon corps, je sais ce dont j'ai besoin d'être au lit, j'ai besoin de dormir. Tout ce qui était en elle, tout ce qu'elle pouvait réfléchir et comprendre par sa sagesse, lui disait que mon remède, c'est le lit. Oh, Nikki venait de dehors, elle lui révélait, ton remède, c'est d'être debout. Parce que cette infection ne va pas partir si tu as alité. Vous voyez le problème? Elle était rebelle, elle voulait comprendre les choses selon ses sens, selon sa sagesse. Mais parfois, nous avons besoin de quelque chose qui semble être une folie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu de loin, tu viens d'être là il y a 3 mois. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons besoin d'une folie d'intervention et d'une révélation qui nous montre notre péché et que nous avons besoin de rien de moins que la mort du Fils de Dieu et sa résurrection pour nous sauver. Vous voyez, ça, le philosophe ne va pas le comprendre, il ne va pas le chercher dans un livre, il ne peut pas fouiller au-dedans parce qu'il est lui-même dans la confusion. Il a une commotion morale, pas cérébrale, qui fait qu'il ne peut pas réfléchir comme il faut, tout comme la maman de Nikki. Et ça nous montre ce que Paul veut dire. Où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous voyez? Et d'un coup, Dieu met à l'écart toute la sagesse du monde et dit, voilà ce dont vous avez besoin. Il ne réagit pas à notre commotion cérébrale, notre confusion, par une autre idée. Il répond par un acte. Il vient, il se montre, il fait la chose. Nikki n'a pas demandé la permission de sa maman. Elle aurait dit non. Elle est venue pour la secourir. Et c'est ce que Dieu a fait. Et pas cette annonce de cette folie de venue, de visite inattendue. Dieu vous donne le salut, la transformation, la puissance qui change votre vie. Donc, vous pouvez voir que pourquoi Paul dit dans le chapitre 3 de cet épître que si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Vous voyez? La conversion chrétienne signifie que je dois détruire avec Dieu toute ma manière de penser. Toute cette idée que je peux savoir de moi-même qui je suis, ce dont j'ai besoin. Que cette pensée que mon histoire, c'est mon histoire. Ton histoire n'est pas ton histoire. Tu es juste quelqu'un dans l'histoire de Dieu que tu ne peux pas connaître à moins qu'il te dise. N'est-ce pas? Et donc, voilà le message de Paul. Je finis juste en disant ceci, à partir du verset 22. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Les gens demandent ceci, les gens demandent cela, mais nous, chers amis, nous devons rester fermes et ne pas céder au désir du monde d'avoir un message sage et intelligent selon leur sagesse. Nous devons venir leur raconter une histoire. Et attention, parfois en tant que chrétiens, nous faisons un tort parce que nous faisons de l'évangile un truc un peu philosophique. Et nous pensons que c'est l'idée, par exemple, l'idée de c'est par la grâce et non par les œuvres, et nous expliquons beaucoup ce concept, et nous pensons que c'est l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. C'est une partie, mais l'évangile, c'est un événement. Nous devons annoncer un événement qui semble être complètement fou. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous disons que Dieu est venu dans une visite inattendue. Parce que c'était le seul remède. Et voilà ce qu'il a fait. Il est mort avec nos péchés chargés sur lui. Et c'est ça, c'est ce qu'il a subi qui peut vous mettre en règle avec votre Dieu et vous ramener au sens de la vie qui était d'être avec Dieu. Et donc, Paul veut nous encourager. On demande ceci, on cherche cela, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Et ça va être une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont appelés, pour ceux que Dieu a choisis, et il vient chercher les appelés. Pour eux, ce message va infailliblement être la puissance et la sagesse de Dieu. Et c'est dans cette confiance que tous ceux qui doivent venir à Dieu viendront si nous racontons cette folie. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. En fait, il ne dit pas littéralement la folie, il dit la chose folle de Dieu. Il évite de dire la folie parce que ça semble vouloir dire que Dieu a une folie. Mais la chose folle de Dieu, c'est-à-dire la croix, est plus sage que les hommes. Et la chose faible de Dieu, Jésus faible, mourant par une faiblesse volontaire pour vous sur la croix, est plus fort que les hommes. Donc le Seigneur nous aide à avoir de la confiance dans le Saint-Esprit et nous rappeler que forcément, cette visite inattendue, dans notre confusion, ça va être, sembler une folie pour les hommes. Mais il faut leur dire, parce que c'est le seul remède. Nous allons chanter. Dans le recueil, le numéro 69, est-ce que quelqu'un t'a dit que tu peux